Bonjour, la danse des mots aujourd'hui a comme invité Florence Dupont, qui est latiniste, plus que latiniste peut-être, puisque c'est une spécialiste du monde antique de Rome, peut-être plus que de la Grèce, mais je pense qu'elle connaît bien la Grèce. Et elle a fait paraître aux éditions du Promeneur récemment un livre qui s'intitule « Rome, la ville sans origine », avec déjà un titre qui paraît presque provocant, puisque très souvent, quand on pense à Rome et à la façon de dater qu'avaient les Romains, on a dans l'idée que cette datation se faisait par rapport à une origine, légendaire ou pas, de cette ville de Rome. Alors, comment est-ce que on s'orientait dans le calendrier à Rome? Comment est-ce qu'on datait les années? Est-ce qu'il y avait vraiment cette référence à la fondation de la ville?
Très, très rarement. Et en fait, les Romains vivent dans le présent. Chaque année est désignée par le nom des deux consuls, on pourrait dire les deux présidents de la République.
Hein. Ça, c'était à l'époque donc de la République romaine.
Et ensuite, ça sera les années des règnes des empereurs. Mmh. Mais en fait, et par conséquent, si on dit c'était sous le consulat de César, etc., il faut... Si on veut dater comme nous en avons l'habitude, il faudrait se reporter à une liste et compter donc par rapport au présent, c'est-à-dire il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc en fait, le présent est toujours l'origine du temps. Et évidemment, ça nous change beaucoup. Alors on peut effectivement utiliser aussi à Rome un calendrier avec la fondation de Rome, mais en réalité... Ça n'est pas pour les Romains eux-mêmes, c'est dans les relations internationales. Il y a un essai de calendrier universel qui est fait en Méditerranée. Les Grecs, eux, datent avec les Olympiades, c'est-à-dire tous les 5 ans, les Jeux d'Olympie, etc. Mais en fait, tout ça est un peu bricolé, si je peux dire, et ça n'est pas comme ça que les gens vivent. Les gens vivent à partir du présent et considèrent qu'ils appellent le temps de la mémoire. La mémoire est un terme important. Le temps de la mémoire, c'est le présent, et ça remonte jusqu'au généralement au grand-père. Et puis au-delà, c'est le passé, mais de façon...
les ancêtres.
Ouais, les ancêtres, flou. Le passé, mais on ne fait pas de comme ça de on ne remonte pas dans le temps de façon systématique.
Il ouais, y a pas une grille temporelle quoi.
Non.
Il y a pas une échelle. Oui. Alors, vous avez publié ce livre dans l'écho d'un questionnement qui a beaucoup fait parler de lui en France ces derniers temps, c'était celui de l'identité nationale, pour souligner en fait que Rome était un État extrêmement libéral quant à la citoyenneté, et vous opposez Rome aux traditions helléniques. Ce qui est étonnant, parce qu'on se représente à la fois Rome comme un État très centralisateur, et vous soulignez en même temps le fait que c'est un empire. C'est-à-dire que cette centralisation est contrebalancée par un esprit extrêmement décentralisé.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas directement citoyen romain. C'est-à-dire citoyen, on est citoyen romain en étant rattaché à une cité. Alors cité espagnole, enfin on dirait en termes modernes espagnole, marocaine, algérienne, etc. Et je dis ça parce que c'est l'Afrique du Nord était enfin, en particulier très très romaine. Hein. Et voilà. Et donc alors pourquoi j'ai pensé à Rome dans ce débat, c'est parce que il y a eu successivement disons Mussolini qui a fait croire à l'identité italienne qui remonterait à l'époque d'Auguste, puisque Auguste a été un de ses grands modèles. Et on s'aperçoit aussi que les historiens français ont construit le modèle d'une identité romaine qui serait italienne, profondément italienne, et qui serait en opposition avec tous les autres peuples de la Méditerranée. Il y a comme ça une sorte de légende identitaire romaine qui, à mon avis, était fausse.
Et qui s'est constitué à quelle époque? Alors
Je pense vers le toujours comme toujours, vers le 19e, c'est-à-dire à l'époque du mouvement des nationalités.
Oui, bien sûr. Mais il est vrai que même pour la France, le 19e a été un siècle extrêmement
c'est
important.
C'est pareil, on a inventé la France.
Oui, tout à fait. Même s'il n'y avait pas d'unité française à faire, parce qu'elle était faite, en tout cas, de façon un petit peu différente de ce qui se passait en Italie ou en Allemagne, c'est là qu'on a inventé une histoire légendaire de la France avec des ancêtres supposés et toute une lignée qui légitimait une certaine façon d'être français et d'exercer le pouvoir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette notion de citoyenneté à Rome. Est-ce que c'est une notion qui a bougé, qui a changé dans le temps? Est-ce que on peut essayer de lui attribuer un acte de naissance? Enfin, est-ce qu'elle sort très vite, cette idée de citoyenneté?
C'est toujours le problème de l'acte de naissance, c'est-à-dire qu'en fait, les temps les plus anciens de Rome sont pas connus, ils sont entièrement fabuleux. Donc, à partir du 3e siècle, on a des documents historiques.
Partir du 3e siècle, avant Jésus-Christ.
Oui, excusez-moi, avant Jésus-Christ. Mmh. Et donc, c'est à peu près à cette époque-là, il y a un système de loi dans le système de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à ce moment-là que le citoyen romain est défini par son origo. Alors, l'origo est un terme latin qu'on traduit par origine, mais qui évidemment, dans la civilisation romaine, a un autre sens. Enfin, disons que son origo, c'est-à-dire qu'il est rattaché à une cité, à une ville. On ne peut pas être citoyen romain si on n'est pas rattaché à une ville. C'est-à-dire on ne peut pas être paysan et romain. Enfin, on peut être paysan, mais il faut être rattaché à une ville. Et on est rattaché à une ville dont les citoyens de cette ville ont le droit de citoyenneté romaine.
Ce qui veut dire que quand on est citoyen romain, on a nécessairement deux ancrages.
Deux ancrages.
Un à Rome et un autre dans une ville qui est la ville dont on est originaire dont vos parents étaient originaires,
lié. C'est là où c'est assez intéressant, c'est que cet ancrage est, disons, virtuel. Mm-hmm. On n'a pas besoin d'y être né, on peut n'y avoir jamais été, les parents peuvent ne pas y être non plus. Et il n'y a pas besoin d'historicité à cet ancrage. C'est-à-dire que un nouveau citoyen, on va lui donner une origo. Il sera citoyen de tel ou tel endroit. Mais c'est une fiction.
Mais alors, quand vous dites on va lui donner une origo, qui la lui donne? Est-ce que c'est lui qui choisit? Est-ce que c'est par rapport à l'histoire de sa famille, l'histoire supposée?
Non, c'est sans histoire. C'est au moment de l'inscription de sa citoyenneté, et en fait, il est rare qu'un citoyen soit rattaché seul. En fait, ce sont des groupes d'étrangers, vaincus, etc., qui sont donc intégrés dans l'Empire, et donc ils vont être rattachés. Alors, soit c'est des coloniaux, mais des coloniaux qui sont vrais ou faux. Donc, en fait, ce sont des groupes où, ça peut être aussi des individus, mais c'est pas eux qui décident, et ça ne renvoie à rien de leur histoire.
Ce qui veut dire que très souvent, il y a eu des sortes de naturalisation collective.
Oui, absolument. Alors, c'est les habitants des villes et généralement les notables, d'abord les notables des villes. Ça se fait aussi par étapes. Et puis, si on veut rentrer dans les détails, il y a 2 degrés de citoyenneté. Enfin bon, c'est pas très important. En fait, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la citoyenneté, c'est pas par les droits politiques que ça vaut, c'est l'accès aux droits privés romains.
Alors, qu'est-ce que ça représente, justement,
citoyenneté? Ça veut dire qu'ils peuvent faire des affaires qui sont réglées par le droit romain, ce qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus soumis au dictat des gouverneurs de province. Voilà. Qui avaient tendance à piller un peu. Voilà. Donc, et à faire leur propre loi dans la province. Donc, ils peuvent faire des affaires. Et en fait, l'État romain est fondamentalement un État qui est fondé sur le droit privé. Non pas sur le droit public, mais sur le droit privé. Je dirais pas sur l'économie. Enfin, mais disons, évidemment, l'économie par rapport en ce comptant. Mais sur le droit privé. Donc, accéder au jus qui voulait, au droit civil, c'est-à-dire au droit privé, c'est à ce moment-là devenir en fait un citoyen romain de plein droit et s'enrichir assez vite, parce que l'avantage de l'impérialisme romain, il a des défauts bien sûr, c'est que il y a la paix et que les échanges commerciaux sont tout d'un coup extrêmement faciles. Il suffit d'aller en bateau et on apporte le vin de Gaulle, le blé d'Algérie, et voilà.
Alors, est-ce que Florence Dupont, vous pensez que ça correspond à une stratégie explicite ou plus inconsciente d'avoir justement assuré cette paix romaine, cette Pax Romana, pour que justement des pays qui avaient été conquis ne se considèrent plus comme rebelles, ne cherchent pas à prendre une revanche, mais se considèrent comme faisant partie d'un grand empire et ayant intérêt à en faire partie?
Non, alors les explications historiques sont toujours très difficiles. À Rome, à l'origine, c'est une cité grecque comme une autre. C'est une cité méditerranéenne, prise dans l'hellénisme, etc. C'est vrai qu'elle seule, si on regarde, même Carthage n'a pas fonctionné comme ça. Les autres cités avaient des colonies et qui, peu à peu, prenaient leur autonomie, enfin, ou très vite prenaient leur autonomie. Là, Rome n'a jamais fait de colonie au sens grec du terme, c'est-à-dire que toutes les cités ont toujours été intégrées dans Rome. Alors, est-ce volontaire ?
Peut-être ça dépend des époques, bien sûr.
Alors, le problème, c'est qu'on ne suit pas du tout une stratégie. Mm-hmm. On s'aperçoit qu'il y a des discours justificatifs, comme le fameux discours de Claude, qui explique que Rome a toujours accueilli tout le monde, parce que c'était son intérêt de rassembler les hommes les meilleurs du monde, hein, et de rassembler les meilleures techniques, etc. Bon, c'est pas... personne n'a jamais dit ça avant. Alors, ce qu'on remarque, c'est que Rome s'est toujours présentée comme un agglomérat de gens venus de toutes parts et aussi de techniques venues de toutes parts. À aucun moment, on ne peut désigner telle ou telle pratique comme originaire. Hein. C'est-à-dire que au moment où on va la désigner comme originaire, ou même comme divinité originaire, on peut faire le discours inverse. Je vais prendre un seul exemple, c'est Jupiter Capitolin. Jupiter Capitolin, c'est le dieu du ciel et du tonnerre, hein, qui est sur le Capitole, c'est-à-dire la colline sacrée de Rome, voilà, qui existe toujours. Et on dit Jupiter Capitolin, c'est quand même le dieu romain par excellence, hein, donc, eh ben pas du tout, hein, il est en costume étrusque, hein, c'est-à-dire d'un peuple qui est très proche, mais qui n'a pas ni la même langue, ni la même culture, etc., hein, et il a le costume étrusque, et on raconte qu'il a été installé là par un roi étrusque. Donc en fait, tout ce qui est romain peut très bien basculer comme, je dirais, importation. Mais c'est comme ça que fonctionne Rome. Donc il n'y a pas de noyau identitaire, et lorsqu'on fait de l'identité, c'est toujours par rapport à une altérité temporaire. Je veux dire, c'est toujours un système, c'est jamais de l'ordre de l'essence.
Alors, Florence Dupont, il y a une légende que beaucoup de gens connaissent, qu'on raconte beaucoup, c'est celle de la fondation de Rome, avec la querelle célèbre entre les deux frères Romulus et Rémus, qui auraient été, bon, fils de Mars et de Rhea Silvia. Ça ressemble à un certain nombre d'autres légendes, hein. On aurait voulu les éloigner du pouvoir, ils ont été recueillis par une louve, puis par un paysan, puis il y a eu la querelle entre les deux frères, le meurtre de l'un par l'autre, la fondation de Rome par Romulus. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous dites que cette légende, c'est une légende parmi de très nombreuses légendes différentes, dans lesquelles on ne retrouve pas d'ailleurs, ou très peu de points communs. On ne retrouve pas le fratricide, le meurtre d'un frère par l'autre, on ne retrouve pas l'histoire de la louve, l'histoire des enfants qui ont été perdus puis recueillis. Donc, quelles sont les principales légendes sur la fondation de Rome ?
Alors, je ne vais pas toutes les raconter parce qu'il y en a 23,
bien sûr,
ou 24, je crois. Et en fait, c'est une légende, entre autres. Ce qui est important de dire, de comprendre et de remarquer en voyant cette masse de légendes, c'est qu'en fait, ces légendes, aucune ne vise à être la vraie, la bonne. Hein. Ces légendes sont en fait fabriquées de toutes pièces, sur commande, à des, on appelle des mythographes grecs. Et elles ont pour fonction d'assurer des relations avec les cités voisines, les cités grecques, hein, ou toutes les cités méditerranéennes. En fait, le récit des origines, ça fait partie de la politique internationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit international, il n'y a aucun archive, hein, et donc, lorsqu'on veut soit faire des alliances, soit faire la guerre d'ailleurs, on va voir le peuple en question, la cité en question, et on raconte une histoire. Du genre, nos cousins, etc., autrefois, se sont battus ensemble pour défendre Troie. L'exemple que je prends ici, c'est celui des peuples éduins, c'est-à-dire des peuples gaulois, hein, et qui ont été contactés par les Romains, à l'époque de César, Hein. Or, les Gaulois font partie d'un grand groupe de Celtes, dont une branche, c'est les Galates. Les Galates étant installés dans l'actuelle Turquie, hein, et donc dans la plaine de Troie. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Romains? Ils sont allés voir les Gaulois de la Saône, hein, les Citoyens. Ils ont dit, voilà, vous êtes nos cousins, et faisons alliance. Donc c'est ça. Donc on raconte à ce moment-là que il y a l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre du roi actuel des Étuains qui a combattu avec Énée dans la guerre de Troie. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, il y a une accumulation de légendes. À chaque fois, on a besoin d'une nouvelle légende. C'est comme ça que Romulus, dans certains cas, est grec. Hein. C'est le fils d'Ulysse. C'est quand même étonnant. Ou Énée et le père. Enfin, donc, on a toutes sortes donc, de...
Énée étant ce héros qui a quitté Troie en flammes et qui, d'après la légende, aurait réussi à aborder donc sur les côtes...
Oui, là aussi, il y a différentes légendes d'Énée. ça fait un feuilleton.
Rome, Florence Dupont, d'où vient-il? On le trouve dans toutes ces légendes, alors? Est-ce que ça serait vraiment une espèce de partie commune?
Voilà, alors en fait, vous avez raison.
Vous qui avez raison, parce que je vous pose cette question parce que vous en parlez dans votre livre.
Non, mais vous avez raison de le rappeler que c'est au centre des choses. Hein. En fait, le seul mot qui soit la donnée première, c'est le nom de Rome. Hein. Donc, Roma, son sens est développé en grec, puisque Roma, Romé, c'est la force.
Et c'est un mot grec d'origine?
D'origine, on peut rien dire. Mmh. J'allais dire sûrement pas. Hein. En tout cas, c'est vrai que une ville n'a jamais ce genre de nom. Hein, une ville grecque. Elle s'appelle. Bon. Donc, en tout cas, c'est comme ça que les Romains. Alors, là, vous soulevez un problème important, c'est-à-dire qu'en fait, l'étymologie est très importante dans la pensée romaine. Hein. Et d'ailleurs, l'étymologie se dit origo, exactement comme l'origine. Hein. Et donc, autant la généalogie n'intéresse pas les Romains, autant l'étymologie les intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir de ce mot Roma que sont fabriqués tous les récits d'origine de Rome. Avec, alors, il y a un Romos, un Romulus, et puis il y a aussi Romé, qui devient une femme, la fille d'aînée, etc.
Et Romé veut dire la force, est associée à cette idée de puissance, alors le nom
pas
même.
Pas forcément. Ça peut, mais ça peut. C'est-à-dire qu'en fait, dans certaines légendes, on dit, c'est comme les habitants de cet endroit étaient très forts, on a appelé la ville Romé, mais c'est pas forcément ça. Elle peut aussi fonctionner comme pur signifiant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Rome, l'étymologie est toujours grecque.
Oui. Et alors, pourquoi ce souci et cette importance accordée à l'étymologie? Est-ce que c'est une façon de considérer les mots comme quelque chose d'essentiel, qu'un mot porte en lui tout le destin futur de la ville ou...
La langue, le latin, c'est ça l'identité romaine. C'est la seule identité romaine. C'est-à-dire, la seule chose qu'ont en commun les Romains, c'est le latin, puisque le latin, c'est la langue du droit, la langue de la politique et la langue de la religion. C'est-à-dire que c'est le seul domaine où il est interdit de parler grec. Dans tous les autres domaines, les Romains parlent soit latin, soit grec, soit un terrible mélange des deux. Hein. Et le latin, c'est la seconde langue, en même temps, c'est l'autre langue de la Méditerranée. C'est-à-dire que ce qu'a créé Rome, il y a une autre langue, un autre grec. Et il y a un terme latin, c'est uterque, qui veut dire les deux à la fois, la paire. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, latin et grec font la paire. Hein. Et ils sont, d'ailleurs, c'est la même langue, avec des sonorités différentes pour les anciens. Hein. C'est vraiment la même langue. Alors, l'intérêt, effectivement, puisque l'identité, c'est la langue, d'où un grand intérêt pour l'étymologie. Hein. Et, mais l'étymologie, en même temps, trouver que le latin a des racines grecques, que l'étymologie des mots est grecque, c'est comme un ruban de Möbius, c'est-à-dire que ce qui est d'un côté, on le retrouve de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans le latin, c'est du grec. Hein. Mais en même temps, ça n'est pas du grec.
Alors, est-ce qu'il y a des légendes sur l'origine de la langue latine ?
Aucune.
Ça reste totalement mystérieux.
C'est une donnée.
Oui.
C'est une réalité. C'est vrai, vous avez raison, j'ai jamais pensé à ça. Mais il n'y a pas non plus de légende sur l'origine grecque.
C'est pas, oui, mais il n'y a pas de légende qui dise qu'il y a un dieu ou un groupe de dieux qui ont donné à ce peuple sa langue.
Mais on ne trouve pas ça. Je ne suis pas sûr qu'on trouve ça en Méditerranée. Mm-hmm. Je pense que. Parce qu'on n'imagine pas les hommes sans langue. En même temps, oui, mais c'est formidable ça comme question. Mais c'est vrai que dans d'autres cultures, on a ce genre de questions. C'est une chose qu'il faudrait regarder. Autant on a l'écriture qui est donnée, mais la langue, non.
Et est-ce qu'il y a eu une rivalité entre la langue grecque et la langue romaine, puisque vous dites justement que il y a de nombreux romains pour qui la langue maternelle était le grec. On dit que César, sa première langue c'était le grec, qu'il a sûrement pas dit toi aussi mon fils quand son fils adoptif il a découvert qu'il faisait partie des comploteurs, mais que s'il avait dit quelque chose, ça serait pas tu quoque fili, ça serait caissu technon quoi.
Oui. C'est un peu compliqué cette affaire parce que, alors, la langue maternelle, c'est une notion un peu difficile, vu que la langue, alors, le latin est certainement la langue paternelle. Mm-hmm. C'est la langue des pères.
Hein. Et de la loi.
Oui, mais des pères, puisque le problème est de savoir qui va enseigner le latin aux enfants. En même temps, le grec, si on a une nourrice grecque, enfin bon, ça dépend qui a élevé le bébé. Hein. Mais c'est vrai que le grec, c'est la langue du plaisir. C'est la langue de l'amour, c'est la langue de l'érotisme. Hein. C'est la langue de la culture en général. Hein. Et c'est la langue de la philosophie, c'est la langue des relations internationales quand on n'est pas dans un cadre officiel. Hein. Bon, mais en réalité, on ne peut pas désigner une fonction à chaque langue. C'est un peu au cas par cas, avec des limites. Hein. Mais il y a comme ça. Et puis, il y a aussi d'autres langues. Hein, les langues vernaculaires sont aussi présentes. Les gens.
L'étrusque a été parlé longtemps à Rome.
À Rome même, non, sûrement pas. Mais
en Italie, oui.
En Étrurie, sans doute, oui, puisque on sait que Claude s'était intéressé à l'étrusque. Hein, l'empereur Claude, le Phénicien, l'Hébreu, tout ça, ont été parlés. On a même des inscriptions qui sont restées. Mais ce sont les deux langues qui ont un statut. De langue écrite, de langue littéraire, disons, c'est le latin et le grec. Pour les autres, on peut l'avoir, hein, mais c'est pas tout à fait pareil, hein, et c'est des langues locales, disons.
Alors, Florence Dupont, une dernière question. D'où vient ce mot de grec? Puisque les Grecs eux-mêmes ne se nomment pas grecs, ce sont des Hellènes, et encore maintenant, dans le grec moderne, cette racine grecque, on la trouve pas, je crois. Par contre, les Romains appellent les Grecs graeci.
Alors ça, c'est,
d'où ça vient ça?
C'est une invention romaine, puisque dans le schéma général de la relation à la Grèce, il faut rappeler que les Romains sont d'abord une cité grecque comme une autre, et que c'est-à-dire Hélène en fait, hellénisée, hellénisant, etc. Hein, et puis il y a un moment historique qu'on peut pas, mais qui est sans doute vers le 3e siècle, hein, où les Romains ont créé une distance par rapport à ceux qui n'étaient pas eux, qui étaient tous les autres, qui sont appelés grecs. Alors, eux-mêmes étant, ayant le latin, étant romain. Voilà. En fait, tout ça s'est fait autour de la langue. Hein. Et alors, donc, les Grecs, c'était quoi? C'était ceux qui parlaient un des dialectes grecs. Alors, le mot grec, c'est sans doute un terme désignant un peuple d'Italie du Sud, hein, entre guillemets grec. Parlant dialecte grec. Mais c'est vrai que c'est assez bien. Alors, donc, il y a eu cette notion globalisante des Grecs, qui est une invention romaine, qui a servi à ce qu'ils se définissent à l'extérieur des Grecs, alors qu'ils restaient toujours profondément grecs.
Bah écoutez, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci Florence Dupont. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Rome, la ville sans origine. Et c'est paru aux éditions du Promeneur. Et merci encore d'avoir été dans La Danse des mots, qui est une émission proposée par RFI et par le Centre National de Documentation Pédagogique, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar. Thank you.